Ouais. Et quand j'ai commencé en illustration, en fait, très très vite, on s'est trouvé. Moi, je suis sorti d'école dans les années 90, et dès les années 90, on avait beaucoup de professeurs d'illustration qui nous disaient, mais écoutez, les jeunes, l'illustration fantastique, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Donc, fort de ça, on est sorti toute une équipe à faire pas mal de fantastique, et on a essayé de s'orienter assez vite vers d'autres domaines. Donc, en fait, mon parcours professionnel, c'est. J'ai commencé en illustration, mais très très vite, j'ai été raccordé au dessin animé, aux jeux vidéo, au cinéma, aux jeux de rôle, jeux de plateau, et à la bande dessinée. Donc, toutes ces choses, ce sont. À chaque fois qu'un projet a pu se présenter dans ma carrière professionnelle, en fait, j'ai essayé de l'aborder de façon à pouvoir entrer dans le domaine. Et ça fait maintenant donc plus de 15 ans que je navigue en fonction de ces domaines-là, en fonction des projets, en fonction de ce qui m'est proposé, de ce que j'ai envie de faire.
Alors ça veut dire donc les domaines du jeu et de l'animation, je dirais avant les années 2000 et aujourd'hui beaucoup plus proche du livre, de la bande dessinée.
Oui, tout à fait. Oui. Il y a plus de production des années 90 au milieu des années 2000 que maintenant où je suis beaucoup plus en illustration, en édition plus traditionnelle, oui, pour le coup.
Alors est-ce que ça peut, parce que moi je le vois du coup, tu passes d'un travail d'équipe.
Oui.
En fait, à un travail plus individuel, ça veut
Oui.
dire quoi? Ça veut dire une maturité un peu plus assumée, je dirais, un travail, une esthétique plus personnelle,
Bah, il y a
ou cette
ça, il y a,
esthétique-là, est-ce que tu
oui.
l'avais dès le départ, quoi, par exemple?
J'ai l'impression d'avoir toujours été un peu décalé. Enfin, j'ai toujours adoré le fantastique. J'ai toujours voulu en vivre. J'avais pas forcément envie de faire ce qui se faisait sur le moment quand il y a eu toute la vague, quand il y a eu toute la période cyberpunk. J'avais pas envie de faire des illustrations cyberpunk, par exemple. Ça ne m'intéressait pas. J'y jouais en jeu de rôle, par exemple, mais où il pouvait y avoir des jeux de plateau, ce genre de choses qui étaient liées au cyberpunk, mais ça ne m'intéressait pas d'illustrer ça. Donc ça a été. Oui, donc j'avance là-dessus, j'avance au coup de cœur et par rapport à mon propre travail. J'ai à peu près toujours travaillé comme ça. Ouais.
Et t'as un univers que tu qualifierais plus de fantasy, de fantastique ou de SF finalement? Parce que le cyberpunk, ça peut quand même
Plus.
intéresser si on se sent
Oui,
attiré par la
tout à
SF,
fait.
la hard science. Et ainsi.
Plus héroïque fantasy, enfin plus fantastique en règle générale. Alors justement, cette notion, je la trouve intéressante, c'est que souvent, professionnellement, on est amené à avoir des discussions. Des discussions de production ou d'édition qui donnent tout de suite des axes en disant ben ça doit être heroic fantasy, ça doit être SF, ça doit être et ça je trouve que c'est souvent une erreur fondamentale parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent d'univers qui sont d'abord entièrement créés et qui une fois qu'ils ont pris leur autonomie deviennent tel genre ou tel genre. Mais moi j'ai pas l'impression de travailler même pour Shaman Killer par exemple. Certes c'est de la science-fiction, c'est une forme de space opéra remis à la sauce Jodorowsky. Donc, avec tout le décalage que ça comporte, mais justement, pour
J'imagine.
moi, c'est d'abord un univers fantastique avant de dire c'est de la science-fiction. C'est pas vraiment le propos, en fait. Et ça m'intéresse pas trop.
Mais là, tu entends fantastique par imaginaire, simplement,
Oui,
peut-être. D'accord.
imaginaire,
Ok.
onirisme. Enfin,
D'accord.
c'est plus la notion d'onirisme qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est la façon dont, indépendamment, on peut rêver les choses et dont on peut le faire partager aux gens. Donc ça, je trouve que c'est le propos de l'illustration, c'est le propos de ce que je fais, de ce que je fais en dessin, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler dans plein de domaines différents, parce que pour ne pas être exclusivement dans un secteur qui touche exclusivement un public, je trouve pas ça forcément très intéressant, voilà.
Et alors, tu parles d'onirisme, et quand on voit un petit peu ton parcours, tu t'es quand même, je dirais, attaqué à des sacrées, je dirais, entreprises qui ont, disons, qui correspondent à peu près à tout, sauf à onirique. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de ton expérience de travaux collectifs, par exemple, sur Arthur et les
Oui.
Mini-Boys, par exemple, ou le cinquième élément, avec
Non, le
toute,
cinquième élément, j'y ai pas
t'as pas
participé.
travaillé là-dessus?
J'ai vécu avec tous ceux
D'accord.
de l'équipe qui ont bossé pour le cinquième élément, mais j'ai pas touché
Mais
au
voilà, donc
cinquième
ton
élément.
expérience
Ouais.
cinématographique, par exemple, avec EuropaCorp aujourd'hui, Luc Besson, et comment on arrive à intégrer une équipe comme ça en gardant justement ce désir onirique, cette volonté de travail. Là, tu nous as fait le plaisir d'amener des petites sculptures qui
Ouais.
sont tirées du film Arthur et les Minimoys. Donc,
Ouais.
quand on voit ce petit travail ciselé, moi, quand je vois ça, je me dis, il n'était pas en train de travailler avec Besson, en train de regarder par-dessus son épaule, parce que là, ça ne
Si en
doit pas être
plus,
possible.
enfin si si
Est-ce que
si
ça, c'est
si.
possible de garder cette...
Ben, je peux expliquer le parcours rapidement. En fait, c'est fin 2001, c'est Philippe Rouchier qui développait avec Patrice Garcia. Patrice Garcia qui est l'auteur d'Arthur et les Minimoys, qui a vraiment démarré le projet, qui a scripté tout ça avec sa femme et qui a fait les premiers visuels. En fait, on décidait de former une équipe réduite, et c'était un peu la tractation avec Besson, c'était de dire, ben voilà, on évite de faire une production fleuve où on embauche 30 dessinateurs à la chaîne qu'on fait bosser pendant 3-4 mois, on récolte tout ça et on l'adapte. Non, le but c'était de dire, on prend une équipe serrée de personnes qui travaillent un peu dans tout, c'est-à-dire qui savent faire du personnage, qui savent développer un univers complet, personnages, décors, objets, qui savent faire du storyboard, qui savent également développer des images qui vont servir d'étalon après pour toute l'image de synthèse et les maquettes. C'était d'arriver à avoir tous ces métiers, à pouvoir détenir un peu tous ces métiers et travailler en équipe serrée. Le principe de l'équipe serrée, alors c'est beaucoup plus long de fait, parce que c'est pas du tout comme les productions américaines. On travaille dans la longueur, puisqu'on n'est que quatre. On n'était que quatre pour tout développer. Donc ça représente plusieurs milliers d'images et plusieurs années de validation. Donc Arthur et les Minimoys, ça va de 2002 à 2008 hein, pour les trois volets. Avec 5 ans pour le premier et puis après 1 an et demi pour le 2 et le 3. Il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Mais pour revenir même à la notion de sculpture et à notre degré de liberté à l'intérieur de films comme Arthur et les Minimoys, alors... Aujourd'hui, je trouve que ça n'a rien à voir par rapport à de l'illustration. On a vraiment carte blanche en comparaison. Mais dans Arthur et les Minimoys, on avait une liberté totale pour les premiers développements. Toutes les validations se faisaient avec Luc Besson. Donc c'est lui qui passait, on validait à chaque fois les dessins. Ou c'est lui qui disait, alors j'aime bien ça, mais j'aimerais bien qu'on remette un bout de ça avec, etc. Donc on modifiait les images en fonction. Malgré tout, c'est lui qui décidait de tout à la fin. Et toutes ces étapes de travail, celles-là ne sont pas frustrantes. Et malgré tout, ça reste de la production. Et il y a un moment où il y a une réduction de tout ça. Et cette réduction, c'est ce qui se passe et ce qui arrive finalement en image dans le film. Et par rapport à ce qui a été développé, c'est une peau de chagrin. Enfin, par rapport à tout ce qu'on a pu faire.
Le livre t'apporte plus de satisfaction sur le produit fini ?
Bah carrément, parce que ce qui m'intéresse de plus en plus avec les années, c'est pas tellement ce qui peut se passer dans ma tête. Parce que des trucs qui se passent dans ma tête, ça fait 20 ans que j'ai envie d'en. Enfin, ça fait même plus, ça fait depuis que je suis môme que je fais des dessins et puis que j'essaie de sortir des trucs de ma tête. Mais c'est après, c'est quel est le médium qui retranscrit le mieux ce passage du « on peut penser à quelque chose, on le dessine » à ce qui peut être présenté aux gens. Et dans ce qui peut être présenté aux gens, ben, le livre est un support fabuleux. Le jeu, en fait, aussi. Je travaille pas mal pour le jeu, les jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle. Là aussi, on en discutait tout à l'heure avec certains du jeu de rôle. Ça reste un terrain sur lequel on peut se permettre encore, je vais dire, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a une liberté totale de développer un certain nombre de concepts un peu extrêmes en se disant « Ouh là là, ça c'est extrême, mais on y va, on s'en fiche ». On se dit « Ben oui, mais c'est ça qu'on a envie de dire, donc il faut le dire comme ça ».
Et ton expérience sur le jeu, donc avant Arthur et les Minimoys, par exemple, t'as servi au niveau de la gestion de l'équipe, gestion des égos de chacun aussi, parce que j'imagine travailler avec quatre illustrateurs, même si c'est une petite équipe, il faut que chacun puisse s'exprimer.
On avait tous des expériences, à peu près tous, 3 sur 4, on avait tous déjà travaillé en production. Moi, je sortais de 4 ans de direction artistique en jeu vidéo. Et direction artistique en jeu vidéo dans les années 90, ça voulait dire tout faire, vraiment tout faire, c'est-à-dire et dessiner et surveiller les équipes. Donc c'était du temps d'Arxel Tribe, et à cette époque-là, il y avait eu le jeu Pilgrim et Ring, Pilgrim avec Mebius et puis Ring avec Druyet. Derrière, il y avait 50 personnes qui travaillaient, donc on avait tous des habitudes comme ça de direction artistique, de réalisation. Donc quand on s'est retrouvé à 4, il y avait ça de marrant, c'est qu'on savait qu'il y avait une hiérarchie, mais en même temps, on était tous dessinateurs et on avait tous développé en production. Donc il y avait aussi un immense respect à regarder ce que faisait l'autre et à dire jusqu'où tu peux aller, toi. Et du coup, à se faire passer aussi les dessins et à les continuer entre nous.
Et tu repars sur de nouvelles aventures au niveau cinéma, par exemple, ou pas ?
Non, parce que j'ai pas très envie à cause de tout ça. J'aurais envie, si j'ai quelques contacts, j'ai des amis... qui sont dans la réalisation ou direction artistique et qui ont envie de lancer des projets, justement. Mais là, j'irais si effectivement il y a une réelle motivation de ces personnes-là qui sont des proches, parce que je sais qu'ils vont essayer de suivre le design et de le répercuter au maximum dans leur travail. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Travailler pour une grosse structure, non, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus tellement, en fait.
Et alors, tu diversifies énormément tes supports, hein, sur, enfin, les domaines, en tous les cas, d'expression, d'expression, que ce soit le cinéma, donc le jeu, le livre. En termes de graphisme, par contre, moi, je trouve une homogénéité, quand même, entre ce que tu fais en illustration, ce que je vois dans la bande dessinée, que ce soit... Là, on voit les couvertures, mais je vous invite à les ouvrir. On s'aperçoit que ben, y a le même type de travail, la même densité, la même minutie dans la couleur, en couleur directe, si j'ai bien suivi.
Alors,
le processus.
C'est la couleur directe, mais numérique.
Mais quand même en couleur directe. Donc, tu arrives à garder cette identité, ou est-ce que par moment, tu t'amuses aussi à explorer vraiment un autre style dans le dessin lui-même, pas que dans le support, quoi. Vraiment,
Il y a un peu... Alors, ça, c'est compliqué parce que ça fait appel à plusieurs choses. Pour revenir justement sur Arthur et les Minimoys, il y a une bascule qui est assez intéressante. On commence en 2002 et moi, je travaillais déjà sur Torrent. J'avais commencé la série Torrent en 2001, que j'avais déjà travaillé depuis 2000. Donc, j'avais un an et demi de travail sur cette série-là. J'étais sur le tome 2 et Arthur et les Minimoys a commencé. Et on avait une façon de travailler sur Arthur et les Minimoys qui fait qu'on fait des bons graphiques. C'est-à-dire qu'on a tous changé de style et de façon d'appliquer le travail, notamment ce qu'on travaillait quasiment essentiellement en numérique, et beaucoup à partir de composites, de photographies et de dessins. Donc une sorte de va-et-vient entre ce qu'on pouvait dessiner, ce qu'on pouvait scanner, à remettre des matières, à faire des images cinéma. Ce qui fait que quand on fait de la BD à côté, ça n'a juste rien à voir, c'est un autre processus de travail. Donc l'une des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a on travaille aussi en tant que dessinateur, tu le sais bien, il y a aussi on va travailler au travers d'un style. J'avais commencé dans un certain style sur Torrent et je me suis aperçu au bout de 3 ans que j'avais beaucoup bougé graphiquement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire techniquement les choses de la même façon, soit parce que j'avais plus envie, soit parce que ça avait trop changé. Donc j'ai dû me freiner sur le... C'était sur le tome 3. Après, j'ai retrouvé une vitesse de croisière sur Torrent. Mais sur le tome 3, j'ai eu d'énormes difficultés parce que je devais freiner mes aspirations et ma façon de travailler parce que j'appliquais ce que je faisais sur le Besson à Torrent. Et c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment revenir sur ce que j'avais fait sur le tome 1 et 2 pour qu'il y ait vraiment une continuité. Mais ça, c'est un boulot à plein temps, hein, la continuité, justement.
Et à propos des différentes techniques, tu es passé du traditionnel, quoi, au numérique assez rapidement. Et est-ce que aujourd'hui tu continues à te balader avec un carnet de croquis et un vrai crayon, ou est-ce que tout est numérique?
Je fais les deux. Continue à me trimballer avec le carnet de croquis. Enfin, c'est plutôt des grands carnets.
Enfin, vu la taille de tes bras, tu peux. Hein.
Oui. En fait, en fonction des... vous devez en voir passer d'ailleurs un certain nombre. Il y a beaucoup de choses qui sont assez proches de l'esquisse et juste d'images rehaussées noir et blanc. Comme celle-ci.
Ça, au départ, par exemple, c'était destiné à quoi, par exemple?
Ça, c'est Kadat. Ça, c'est pour Kadat.
On va en parler.
J'ai fait beaucoup de choses comme ça qui sont démarrées en croquis et qui sont un petit peu retouchées sur machine, mais c'est juste des réos comme on peut en faire en traditionnel, donc en remettant juste quelques blancs et quelques ombres. Mais beaucoup de ce travail-là est fait aussi à partir de dessins réels, enfin sur carnet. Donc je continue et même j'y reviens parce qu'il y a, on fait un, en image de synthèse, je trouve il y a un moment où on aime beaucoup travailler en tout numérique parce qu'il y a une dimension très agréable à bosser en tout numérique. Et en même temps, il y a, sans parler de nostalgie, c'est pas ça, mais c'est plus d'ordre psychologique. C'est une façon d'appréhender et technique. C'est une façon d'appréhender le dessin, c'est-à-dire que la vision que l'on a en travaillant sur un original papier n'est pas la même qu'en travaillant sur machine. Moi, il y a des esquisses ou des recherches que je peux faire, par exemple, si j'ai une recherche de design à faire pour un nouveau projet de BD, il y a des choses que je vais attaquer sur machine. Et puis, au bout de 2 jours de travail, je m'aperçois que rien de bon n'est sorti. Parce que le fait de travailler sur palette graphique pour faire quelquefois des recherches design, c'est pas le truc qu'il faut. Et quelquefois, en 5 minutes sur un bout de papier, on tombe tout de suite l'idée. Et puis l'inverse existe aussi. Ça m'arrive de démarrer comme ça en griffonnant, en chargeant une page, et en me disant, ben non, finalement, c'est moche. Alors, je balance le truc et je l'attaque en tout numérique. Donc, c'est vraiment des processus psychologiques et intellectuels très différents. Et j'ai même pas d'explication là-dessus. Ça alterne.
Oui, c'est assez intuitif, quoi. Enfin,
oui,
c'est presque,
oui. Ça se teste.
C'est vraiment l'outil de l'artisan,
oui.
Là, du coup. Là,
oui, parce que ça dépend à la fois du projet lui-même et puis de la période à laquelle j'attaque ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je travaille tout en numérique. C'est évident que dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à attraper la palette de l'ordinateur plutôt qu'un crayon. Et puis au bout de 2 jours, je me dis, mais t'es bête, fais-le sur papier, ça ira plus vite.
Et alors sur tes projets récents, donc il y a le livre Cadet que l'on n'a pas là parce qu'il en a des difficultés à trouver parce que c'est quand même un succès de vente.
Il y a une dizaine d'exemplaires qui arrivent chez l'éditeur, voilà. Qui devraient arriver d'ici samedi maximum.
J'en ai pas à vous présenter. Voilà. Un livre illustré magnifique avec donc 4 auteurs qui ont travaillé autour de l'univers de Lovecraft,
oui,
on dira, qui est un univers a priori que tu as l'air de plutôt apprécier, puisque on verra un petit peu plus tard dans le travail photographique, il y a des pieuvres de partout.
Oui.
Donc, alors, tu vas pas nous parler de ton amour du tentacule, mais plutôt, alors, comment ça s'est passé avec Lovecraft, avec le travail donc concernant les 4 auteurs, avec Mnemos par exemple, parce que. Le rapport avec les 4 auteurs sur un livre illustré n'est pas forcément le même que tu as eu, par exemple, avec Jodorowsky sur le scénario de la bande dessinée.
Oui, clairement. Et puis ça se monte. Les projets ne se montrent pas de la même façon. Ça n'a rien à voir. Alors en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'exposition montre cette série de photos. Je vais malheureusement parler de l'exposition, parce que c'est ce qui amène Kadat, en fait.
Ok, alors on va reparler de l'exposition.
J'ai commencé par ce travail photographique en 2008. Qui était la volonté de faire une série de 15 images photographiques qui étaient des recomposées à partir de plaques de verre. Donc jusque dans les années 1930, la plaque de verre est l'un des supports privilégiés de la photographie. Et notamment de la photographie technique, c'est-à-dire tout ce qui est photographie professionnelle, packshot, architecture, tout ça se faisait sur plaques de verre. Bon, beaucoup d'amateurs éclairés ont utilisé ces plaques, on en trouve encore dans les brocantes, un peu partout. Enfin, ça sera.
Tu as réussi à en trouver combien, dis-moi, parce que tu m'as donné.
Plusieurs milliers, je ne sais pas, je n'ai jamais compté, mais c'est tout en vrac, je ne sais pas, plusieurs milliers en tout cas. Et ça va de petits formats comme ça, des grandes plaques qui font des formats A4, au moins en négatif. Hein. Donc ce sont des qualités hallucinantes. C'est un support qui plastiquement déjà est attirant. Et c'est fascinant. C'est une sorte d'hecta gigantesque. Donc c'est à partir de ça que j'ai fait cette série de photographies.
Là c'est la première fois, on est d'accord, c'est la première fois qu'elle est présentée sous son format.
Alors du coup, oui, réel, parce qu'au départ, ça a été pour faire un livre de tirage. C'est un tirage limité à 20 exemplaires.
Je vous invite à aller regarder dans les vitrines le livre en question.
Voilà, donc le livre en question est en vitrine. Et ces images-là, par contre, je les ai travaillées au format auquel vous pouvez les voir là dans l'exposition. Donc c'était d'assez gros format que j'avais travaillé. Et dedans, j'avais commencé à disséminer. Donc il y avait aussi un travail de dessin et de peinture à l'intérieur de ces images. Et tout ça est encore refondu par des matières et des superpositions de plaques. Donc j'avais fait ça pour mon plaisir. Vraiment, parce que ça a été la seule motivation du projet. C'est pour le plaisir et puis pour faire quelque chose de concret. Surtout que je sortais de pas mal d'années de production. C'était à la fin d'Arthur et les Minimoy. J'en avais un peu marre. C'est un peu ce que j'avais fait pour le jeu vidéo en 2000. Quand je suis parti du jeu vidéo, j'ai dit bon, j'arrête tout, je fais de la BD. Il y a un besoin à certains moments de se ressourcer, de faire un boulot personnel.
Revenir dans l'atelier seul.
Ouais. Et c'est par un ami graphiste, Franck Achard, qui travaillait avec les éditions Mnemos, qui m'a présenté à eux. Parce qu'il savait qu'il développait une collection qui s'appelle Ourobor, dont le principe est de développer une cité fantastique. Alors sur le thème est choisi un peu collégialement par les gens qui sont à Mnemos et puis les quelques auteurs qui peuvent être intéressés. Et en ouvrant une brèche, une piste, le but c'est de développer à la fois, c'est d'avoir l'écriture croisée de 4 écrivains qui écrivent des textes sur le thème donné. Et un illustrateur qui est chargé d'illustrer au maximum. Alors, ce qu'il y avait dans ce projet-là, c'était sur Mathieu Gabory, sur Abîme, c'est le livre d'Abîme, illustré par Trignac. Parce que Trignac avait fait la majorité des illustrations. C'est Julien Delval qui a fait des illustrations additionnelles. Je crois. Il y a peut-être un autre illustrateur, je ne sais pas. Voilà, je m'excuse si je l'oublie. Et donc, le Abîme de Mathieu Gabory avait été le premier de la collection. Donc, Cadat. Après est arrivée l'idée de Cadat. Et quand il y a eu ça, moi, je suis arrivé avec le livre pour le montrer à Frédéric Weil pour lui dire, ben voilà. Voilà jusqu'où on peut aller pour faire du Lovecraft. Ça peut être intéressant d'explorer certaines pistes comme ça et d'avoir une sorte de... L'un des problèmes de ce genre de livre, c'était le problème même de Cadat, c'est qu'on savait que ça allait faire à peu près 200 pages, qu'il allait y avoir 80, 100 visuels, et que ces visuels, j'utilise le terme de visuel justement parce que ça devait prendre différentes formes. Déjà parce qu'il y avait 4 personnes qui écrivaient dedans, donc qui donnait des approches radicalement différentes et des esthétiques différentes à l'ouvrage, et le fait que je n'avais pas envie de m'épuiser sur un seul style graphique. Je ne voulais pas faire 100 fausses photos ou 100 petits croquis.
Oui, il y a des dessins qui habillent simplement le texte. Y a
voilà,
des
donc pages, la volonté, c'était de retrouver aussi un peu ce que l'on peut trouver même dans le... dans l'illustration du 19e siècle, même dans les Gustave Doré ou dans les Robida, c'est-à-dire de la gravure, pleine page, surtravaillée avec 4 personnes, 3 continuateurs qui travaillent dessus, et puis des petites esquisses dans un coin, juste pour montrer, pour illustrer un propos, mais qui n'a pas forcément besoin de plus. Donc tout le travail de Cadat était de jouer là-dessus, à la fois sur la grosse image qui tape, puis à d'autres moments de respirer, d'être tranquille et puis de faire juste une esquisse.
Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu un désir, par exemple, aussi d'homogénéité dans les textes même, en fait, ou est-ce que c'est vraiment donc 4 nouvelles complètement disparates
oui,
et,
oui,
que,
non, ça,
et toi, tu as fait entre guillemets un effort pour.
Il y a un travail du directeur d'écriture, c'est Raphaël Granier-Cassagnac qui est l'un des 4 écrivains, mais qui, avant d'écrire son texte, en fait, a coordonné les 3 autres textes. Donc sur Cadat, à l'époque, on n'avait pas eu tellement le temps de faire ça en amont, mais là, on attaque un nouveau projet sur Jules Verne, en fait, hein, toujours avec Nemos, toujours dans la collection Ourobore.
Est-ce que tu peux nous citer les 4 auteurs, par exemple, là, ou est-ce que c'est trop tôt?
Il y a Joan Elliott, il y a Jeanne Desbats, et Raphaël, j'ai oublié son nom, et Raphaël Granier.
D'accord.
Voilà. Et sur Cadat, on n'avait pas eu le temps d'anticiper suffisamment le travail de dessin, parce qu'il y a aussi un jeu qui est assez intéressant. On a toujours tendance, enfin je trouve que c'est assez français, c'est de faire passer l'écriture avant le dessin, et de dire que l'écriture, quelque part, est plus fondamentale ou apporte plus de base ferme à un projet. Et typiquement, dans un projet de développement de cité, un développement graphique où il faut faire et les plans, et les bâtiments principaux, et les histoires qui peuvent se passer à l'intérieur, n'est-il pas plus intéressant de faire travailler parfois le dessinateur avant? Donc ça a été... On n'a pas eu le temps sur Cadat. On a eu pas mal de réunions, on a discuté comme ça assez librement, où moi j'intervenais, je disais, bah, écoutez, moi je risque de faire quelque chose d'à peu près comme ça, sans qu'il... Bah voilà, ça c'est une image de Cadat. On peut faire une image à peu près comme ça, et puis eux ils sont partis sur leur écriture, et après j'ai fait les images définitives et ils ont dit ah oui d'accord. Donc il y a eu ça s'est fait en 2 temps. Mais là par exemple pour le Verne, il y a un certain nombre de dessins qui ont été faits bien avant, c'est-à-dire que ce sont même les écrivains qui ont écrit alors dans des rails pas trop forcés non plus, hein, ils ont eu beaucoup de liberté aussi, mais où le principe était quand même de partir un petit peu de dessin pour pouvoir être guidé aussi dans l'écriture.
Et ton projet, enfin le travail sur le livre photographique, là par contre, le texte, tu en es l'auteur.
Pardon ?
Tu es l'auteur du texte.
Oui, oui, concernant oui tout à fait.
Tu peux nous parler un petit peu de cette aventure là, de...
Oui, ben le...
Qu'est-ce qui leur arrive à ces
oui,
explorateurs.
C'est... En fait, le livre retrace l'histoire d'un ingénieur français qui est détaché en Amérique du Sud pour construire des routes et pour réhabiliter et pour faire des percées dans les montagnes. Et lors de ses explorations, il découvre une créature pétrifiée, et il sort cette créature, elle est gigantesque. Elle semble presque encore vivante, elle est conservée, c'est ni un fossile, ni... ils n'arrivent pas à savoir, c'est comme si elle était encore vivante, donc ils arrivent à sortir cette créature. Il découvre pas longtemps après une grotte à l'intérieur de laquelle il y a des œufs gigantesques. Enfin, il commence à y avoir beaucoup de phénomènes assez étranges. Il se dit, il va très vite dans. Alors tout se passe au début à la fin du 19e siècle. Il va vite. Il court vite en ville pour essayer de ramener du monde, des journalistes et tout, pour pouvoir parler du phénomène. Et là, c'est le complot, c'est David Vincent et les envahisseurs. Il est le seul à avoir pu constater ça. Toutes ses équipes de travail ont disparu. La grotte s'est effondrée, on n'y a plus accès. Le poulpe géant a disparu, celui qui a été sorti de terre. C'est le mystère complet. Il est rapatrié, il est enfermé, il est mis en asile psychiatrique. Et donc c'est une histoire très lovecraftienne hein, dans le et petit à petit il s'aperçoit en fait qu'il a une que lui arrive à entrer en contact avec ces créatures là à partir du moment où il photographie. Donc très souvent il est amené à faire des sorties de son asile pour aller prendre des photographies et il à chaque fois apparaissent sur les plaques ces créatures d'un autre monde qui n'arrivent pas à dont il n'arrive pas à savoir ni d'où elles viennent, ni ce qu'elles font. Enfin, c'est même plus le propos. Il sait juste qu'il est une sorte de connexion entre ces deux mondes. Donc il passe sa vie à photographier. Et donc il y a toute une intrigue qui est liée à la fois au directeur de l'hôpital psychiatrique, la femme de ce chercheur. Voilà, donc en gros c'est...
Donc une mise en scène aussi des photographies du coup.
C'est une mise en scène des photographies. Puisque les photographies, j'ai commencé par récolter toutes les plaques. J'ai commencé à faire des montages pour voir à peu près ce que je pouvais en faire. J'ai commencé à esquisser les créatures, tout ça. Et puis essayer de faire... Il y avait une montée en puissance des créatures. C'est-à-dire qu'au début, on était juste... on voyait pas trop les créatures. Ça se fait petit bout par petit bout jusqu'à voir des phénomènes de plus en plus surnaturels. Donc une fois la série montée, j'ai commencé à écrire le texte de façon à faire le lien entre chacune de ces images. Voilà.
D'accord, donc tu nous rassures, c'est fait sur Photoshop, tu prends pas en photo des poules
oui, dans ta tout à fait. Toute non. La journée. Quoi. Toujours pas, non. D'accord. J'aimerais bien, mais...
Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta collaboration sur aussi les dernières sorties, à savoir avec Jodorowsky, parce qu'il était là donc l'année passée.
Oui.
C'est un personnage, je dirais, haut en couleur. Donc, comment ça se passe quand on est à deux et que l'un s'appelle Jodorowsky?
D'abord, ça fait peur. En fait, historiquement, déjà quand j'étais sur Torrent aux Humanoïdes Associés, Jodorowsky avait quasiment toutes ses publications aux Humanoïdes Associés. Et les directeurs de collection m'avaient dit, tu sais, ce serait bien pour remotiver un peu ce qui se passe sur Torrent, que tu travailles peut-être une série avec Jodorowsky et tout. Puis à l'époque, j'avais dit, écoutez, je veux pas trop parce que Jodorowsky, j'en ai pas toujours des échos. J'en ai des échos parfois un peu bizarres. Et je savais qu'il y avait un peu deux façons de travailler avec Jodorowsky. C'est-à-dire, soit on était un vieux de la vieille, un Riménez, un Mébius, un Bess, un Bouc. Et là, il n'y avait pas de problème. Soit on était un plus petit auteur, c'est Beltran, Jean Gétoff, qui sont des auteurs importants, bien sûr, mais qui sont un peu plus écrasés par Jodorowsky, enfin, qui donnent cette impression-là, et où on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément toutes les libertés qu'ils voudraient en travaillant avec quelqu'un comme Jodorowsky. Donc à l'époque, j'avais dit, vous êtes gentil, non, je finis Torrent, et puis on verra après, peut-être, mais je ne fais pas les deux. Je ne fais pas et Torrent et un Jodorowsky. Et puis le temps a passé, il y avait un projet à l'époque, il y avait un script qui traînait, qui était le script de Showman Killer, hein, qui était le démarrage, qui était à l'origine pour Riménez. Donc là, il y avait un lien intéressant, c'est-à-dire que c'est ce qu'il devait faire au-delà des métabarons. Et puis Riménez a décliné parce qu'il voulait travailler seul. Bon, ils sortaient 8 albums ensemble. Riménez, il avait 2-3 idées de son cru dans son coin, donc il a dit non. Je préfère pas. C'est un univers type un peu métabaron, c'est-à-dire qu'il repartait sur des principes un peu métabaron. Et le scénar est resté comme ça à naviguer un petit peu. Et il atterrit en fait chez Delcourt. C'est Delcourt qui a récupéré ça, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires financières à cette époque-là aux Humano. Delcourt récupère ça et Delcourt m'appelle sans savoir en fait que je connais déjà Jodorowsky parce qu'entre temps j'avais travaillé sur les mises en couleur de François Bouc pour Bouncer, pour la série Bouncer et à l'époque en fait Jodorowsky passait à la maison pour voir l'avancement des planches pour voir l'avancement des mises en couleur. Donc on se connaissait déjà, on s'était déjà croisé plusieurs fois. Moi, j'allais voir à l'époque du temps, alors là, du cinquième élément, j'allais voir ses spectacles, tout ce qu'il pouvait faire, toutes ces interventions qu'il faisait à Jussieu. Après, tirer les tarots au bar d'en face, il allait faire ses conférences dans l'université. Donc tout ça, moi, j'avais suivi, j'ai toujours aimé le personnage. Et quand on a commencé Shaman Killer, donc ça s'est fait assez simplement. Moi, j'ai fait quelques images test. Ensuite, on en a rediscuté ensemble. Et puis, c'était parti. Et alors, le gros avantage de travailler avec quelqu'un comme Jodorowsky, j'étais même assez surpris parce que je m'attendais pas à ça. Mais il a commencé direct en disant, écoute, Yeneswi, qui est l'écrivain, c'est toi le réalisateur. Et il parle vraiment en termes de réalisation pour lui dans les albums BD. Il dit, c'est toi qui mets en image, c'est toi qui fais le découpage, c'est toi qui a l'intelligence de mettre ça en image, donc c'est ton boulot. Il y a sûrement des choses qui ne vont pas te plaire, modifie-les, on en discute. Et par contre, ce qu'il préconise et ce qu'il veut vraiment, c'est d'avoir un lien assez fort quand même avec le dessinateur, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de discuter. Il n'y a rien qui le terrifie plus qu'un dessinateur à qui on donne un texte et qui lui rend les planches finies, où il n'y a plus rien à faire, où on ne peut plus intervenir, où on n'a plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose... Ça, par contre, il m'a dit, évite, sinon on ne va pas se voir beaucoup. Et bon, on a fait l'inverse. Donc, on s'est pas mal vu en fait. Alors, soit téléphone, soit en direct, mais souvent, la façon dont ça se passe, lui, il livre un script d'environ 35 planches, 35 pages, pas planches, pages, et qui a toute l'histoire. Donc, c'est une description assez théâtrale, en fait, c'est assez marrant, on a l'impression de lire une pièce de théâtre. Et donc, moi, je fais un premier découpage. Qu'ensuite, je lui montre. Et le but du jeu, c'est quelque part de lui re-raconter l'histoire. De lui dire, assieds-toi, je vais te re-raconter l'histoire, là, avec les dessins. Alors, c'est juste des gros patatoïdes, c'est juste des boules informes et les textes qui sont posés. Et le truc, c'est de lui re-raconter en réutilisant tous ces textes, en introduisant tous ces textes, en disant, voilà, je les ai mis comme ça en situation. Voilà. Et en fonction de ça, lui, il improvise. C'est-à-dire que lui, il repart sur le truc en disant « Ouais, mais si tu as fait ça, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir ça. » Et là, on change le tout. Parce que moi, de mon côté, j'avais une contrainte, c'est que ce sont des images, après, qui sont assez longues à faire.
Avec la mise en couleur
Avec la mise en couleur directe. Et ça, c'est l'un des pièges de la mise en couleur directe. C'est-à-dire que refaire, si une séquence ne va pas, de dire « Ben non, là, sur toute une page, il faudrait tout décaler. » ou Non, c'est pas possible. Donc le but du jeu, c'était assez clair aussi avec lui. Par contre, ça a été ma contrainte. C'était de lui dire, écoute, je suis désolé, mais au-delà du découpage, je ne change plus rien. On dit, tu pourras intervenir, mais je ne changerai pas fondamentalement une scène par rapport à la scénarisation. Et ça a plutôt très bien fonctionné, parce qu'après, moi, je revenais avec des étapes en cours du travail, par contre, où là, il intervenait en disant, non, lui, j'aime pas sa tête, là, tu crois pas que, là, ça pourrait être plus clair, etc. Et ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut qu'il y ait
un vrai échange.
Donc oui, plutôt un vrai échange. Et
vous allez partir sur une autre série, parce que là, c'est une série donc terminée. Est-ce qu'il y a des projets encore pour continuer avec lui
Oui, le but premier, c'était de faire une série en 3 tomes. Alors c'était au départ en 2 tomes. Lui, il a voulu pousser à 4. Je lui redemandais plutôt à 3, etc. Je voulais qu'il y ait une histoire finie en 150 planches. Qu'on ait quelque chose de cohérent et qui avance assez vite. C'est-à-dire que tout est sorti en 2 ans et demi, hein, pas plus. Ce qui permettait d'avoir tout de suite un univers posé, et à partir de là, bon, on peut faire soit des continuations, soit revenir sur les histoires.
Combien de temps par album? Parce que la sortie en 2 ans et demi.
Moi, je mets 6 mois pour faire un album, en fait. C'est 6 mois, mais à l'intérieur d'une année. C'est-à-dire que je n'arrive pas à travailler exclusivement sur la bande dessinée, comme je n'arrive pas à travailler exclusivement sur l'illustration, ou sur un film, ou sur un jeu vidéo, ou sur du jeu de plateau. Je ne peux pas faire. J'ai du mal à ne travailler que sur une seule activité, parce que je trouve c'est un travail, notamment la bande dessinée, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un travail au long cours, et ça use simplement. Il y a besoin de faire des pauses graphiques sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Et c'est ce qui donne, je trouve, plus de force après quand on revient sur l'album. Donc quelquefois, il faut un mois de pause de façon à revenir intelligemment sur l'album. Donc c'est 6 mois de travail. Alors, 6 mois de travail à 15 heures par jour. Hein, donc ça correspond en plein temps normal à une année de travail. Mais c'est toujours sur un an, par contre. Ouais.
Alors, tu as fait l'affiche des Utopiales de cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner tes impressions, content, pas content de voir l'affiche, d'avoir envahi Nantes et ses environs et tout ça. Et après, on passera peut-être, si ça vous intéresse, à quelques questions concernant son travail, si ça vous intéresse. Hein.
Bah alors, l'affiche, l'affiche des Utopiales, c'est quand même du lourd. Oui, et puis vu l'affichage, c'est carrément très impressionnant. Ce qui me faisait peur un peu, déjà c'est le thème qui m'a été donné, on me dit les origines, je fais oui, d'accord, ça évoque pas forcément grand chose, enfin oui, ça amène plein de réflexions, pas forcément beaucoup d'images, enfin ça c'est, enfin moi ça m'a pas amené beaucoup d'images tout de suite. Et puis le problème des affiches souvent, c'est que quand on demande une affiche à un illustrateur, on est toujours un peu le...
C'est possible de remettre l'affiche des Utopiales en fond d'écran ? Merci. Comme
ça, on est toujours dans une sorte d'entre-deux en se disant, bah voilà, il faut mettre tous les éléments que tout le monde a envie de voir, et puis en même temps, il faut que je rajoute des trucs à moi. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi dans mon coin, mais en même temps, sur un principe d'accumulation. Donc l'idée, ça a été d'accumuler des objets architecturaux ou d'ambiance. Donc il y a à la fois les escaliers, il y a cette ouverture avec les statues, ces sortes de statues primitives, ça continue petit à petit en bâtiment plus moderne. Malgré tout, il y a une réappréhension de la nature. Donc là aussi.
Et sous les textes, il y a des personnages en fait.
Oui. Alors sous les textes, il y a des personnages qui sortent de l'eau parce que les escaliers plongent dans l'eau en fait. Et tout ceci contribue à la construction de cette tour centrale. Donc, tous ces éléments, je voulais faire une sorte de cadavre exquis, mais un peu comme les plaques photo, c'est d'arriver à faire un cadavre exquis et qui après est un sens une fois que tous ces éléments sont mis en place. C'est-à-dire qu'ils génèrent par eux-mêmes une ambiance particulière, une ambiance décalée. Je voulais quelque chose de décalé, je voulais pas quelque chose de science-fiction, je voulais pas quelque chose d'heroic fantasy, je voulais pas... Voilà, tout ce qu'on a dit un peu au début, je voulais juste de l'onirisme, une sorte de passerelle vers le rêve.
Et
voilà.
Tu l'as travaillé comment alors du coup ? Parce que quand on voit le détail, en fait, on a vraiment l'impression que c'est une vraie peinture, entre guillemets. Ben non
pour
digital.
Le coup, non, c'est juste 100% numérique. Ouais. Il n'y a même pas d'esquisse, rien du tout, c'est tout numérique. D'accord. Et l'image, c'est, d'ailleurs, dans la construction, en fait, l'image au départ, c'est juste le cadre central avec la perspective des bâtiments. C'était juste ça l'image. Et petit à petit, en travaillant sur machine, j'arrêtais pas d'étendre l'image, de l'agrandir, agrandir, agrandir. Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler comme ça, de commencer par un petit bout, et puis j'agrandis un coup, et je travaille ce qu'il y a autour. Et j'agrandis encore un coup, et j'agrandis ce qu'il y a autour. D'où le zeppelin qui commence à apparaître, les espèces de pyramides bizarres sur les côtés, la nature, pareil. Et finalement, la tour, pareil, j'ai augmenté l'image du double pour avoir la tour la plus grande possible. Donc c'est des... ça a été fait aussi sur un principe d'accumulation.
Un processus intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, par contre, maintenant, parce que ce qu'on n'a pas encore vu, du coup.
Alors, donc le livre chez Mnemos, ça devrait arriver d'ici, donc sur Jules Verne, qui devrait arriver, j'en sais rien précisément. Moi, je finis le travail là, d'ici la fin de l'année, à peu près.
Un livre sur Jules Verne, on risque de te revoir dans le coin.
Peut-être bien, ouais. donc là, gros travail, puisqu'il y aura encore plus d'images que sur Kadat, je pense. Enfin, vu comme ça se profile, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je travaille beaucoup pour le jeu en ce moment, tout ce qui est jeu de plateau. Je travaille aussi pour. Il y a un jeu qui s'appelle Timeline, qui est c'est un travail un peu de psychopathe, parce que ce sont des cartes à jouer sur les inventions. Qu'il faut remettre dans un ordre chronologique. Donc, c'est un petit jeu de table familial, tout simple, mais qui, pour bien fonctionner, doit, à chaque fois qu'un jeu ou une extension sort, Ils sortent sous forme de paquets de 110 cartes. Donc il faut qu'il y ait un illustrateur qui fasse les 110 cartes. Et depuis le début, en fait, je l'ai fait. Et là, j'ai fait plus de 4 versions et je vais encore en attaquer d'autres. Donc j'ai déjà plus de 500 visuels, 500 illustrations de timeline. Et je continue dessus avec Frédéric Henry, qui est un concepteur, game designer, avec qui je continue de travailler. On continue à pas mal développer là-dessus. Voilà. Et puis, dans le temps, je pense. Je ferai tout pour essayer de faire aussi des choses avec Mathieu Gabory, parce qu'on a, déjà pas mal collaboré ensemble, notamment sur un jeu de rôle, sur les Chroniques des Féales, et qui est l'adaptation des Chroniques des Féales en jeu de rôle. On croise beaucoup de choses dans nos univers divers et variés, et on a envie de continuer à travailler ensemble. Donc d'ici un ou deux ans, je pense qu'on va faire des choses ensemble.
Un illustrateur prolixe. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des questions dans la salle, par exemple, sur son travail ? Ou est-ce que vous avez tout compris ? Il n'y a plus rien à rajouter ? On a décrypté complètement le personnage. Ah, je vois une main qui se lève. Il n'y a pas de micro ? Non ? Si ? Ah, il y a peut-être un monsieur qui arrive avec un micro, je crois. Non, il faut venir le chercher, il faut le mériter le micro. Alors.
Ça marche ?
Ouais.
C'était pour savoir, justement, est-ce que vous avez parlé de plusieurs projets, mais pas vraiment encore, pas de bande dessinée future éventuellement ? Est-ce que c'est, pour l'instant, c'est un peu time off, ou est-ce que ça pourrait venir d'ici quelques années ? Et si oui, vous avez déjà des contacts ?
En fait, là, j'ai décidé de faire une pause. Pas forcément très longue, hein, parce qu'après, une fois que le projet signe, encore une fois, l'album, généralement, je le fais dans l'année. Mais il m'est arrivé entre Torrent et Shaman Killer de présenter pas mal de projets. J'ai présenté trois autres projets avant qu'on ne m'appelle sur Shaman Killer, et aucun de ces projets n'avait été pris, qui étaient des travaux de collaboration avec d'autres scénaristes, avec Mosdi notamment, et puis Runberg. Et tous ces projets sont passés à la trappe, et moi ça m'avait rendu très triste, à tel point que je m'étais dit, même à l'époque, j'arrête. Et c'est à ce moment là qu'on me contacte pour Shaman Killer. J'ai pas mal d'idées, je me les garde sous le pied pour l'instant, et je verrai vraiment. Mais pour l'instant, ce qui se passe en illustration, je trouve, est un peu plus important dans l'immédiat. Donc je préfère encore creuser ce sillon là et puis je verrai.
Juste pour, est-ce que ça serait envisageable pour vous de faire les deux, la BD, le scénario et l'illustration, ou parce que vous parlez d'idées, ou est-ce que,
oui, bien sûr.
Est-ce que vous resteriez uniquement sur l'illustration ?
Je pense que je ferai les deux. Il y a des chances que je fasse les deux. C'est ce que j'ai fait sur Torrent, et moi c'est une liberté qui me plaît bien quand même. Donc après on n'est pas à l'abri d'un très beau projet. Hein. C'est comme quand Gilles me demandait par rapport au cinéma. Le cinéma, j'ai envie de dire non, pitié, plus jamais. Mais si demain un copain se pointe avec un gros dossier en me disant, regarde, on va développer une cité complètement folle avec 500 000 personnages dedans, il faut tous les dessiner. Oui, j'ai envie de sauter dessus. Donc en bande dessinée, ça se passe aussi. Hein. C'était le cas pour Runberg, par exemple, c'est lui qui fait Orbital. Quand il est arrivé avec son projet, j'avais envie de le faire. Voilà.
D'autres questions ? Ah, il y a une question là-bas. Puis après, ce sera l'heure du goûter.
Donc, je voulais parler pour l'affiche que vous avez fait pour les Utopiales. Donc, vous avez dit à peu près que c'était une porte ouverte sur l'origine, enfin sur une cité.
Oui.
Ça, à peu près. Ouais. Je voulais savoir comment ça se fait que la cité, il y a aucune personne en fait.
En fait, c'est
que des bâtiments.
Ah oui, mais il y a une personne dans l'escalier et deux autres personnes qui étaient dans l'eau.
Il y a un drôle de texte devant.
Et il y a le texte devant. Et un fond du haut noir vers le bas.
Les personnages sont où là ?
Ils ont été obligés de marquer Utopia à un moment donné.
Je ne les vois pas là.
Vous avez une sorte de tache là, juste au milieu. C'est l'amorce d'un personnage en cape.
Parce que quand même, le sujet à la base, c'est l'origine, quoi. Donc ça nous touche tous. C'est une recherche chez l'homme. Donc moi, je trouvais un peu, je trouvais ça très 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 joli, mais je trouvais un peu votre dessin stérile.
Un peu désincarné.
Oui, voilà, exactement.
Ouais.
Bah pourtant, c'est pas ce qui manque au niveau symbole masculin.
Mais... Oui, non, mais il y a tout. Il y a vraiment tout. Là, c'est vrai que c'est très joli. Il y a plein de choses. c'est très fourni. C'est un dessin qui est très fourni, ça va loin. Mais ça vit pas. Il y a personne, il n'y a aucune personne qui descend l'escalier, il y a aucune vie en fin de compte. Tout est figé, tout est stérile, j'ai l'impression. Enfin bon,
mais c'est intéressant, mais il y a quand même un personnage en cape qui monte l'escalier. Mais
et oui, là, le petit juste, point là-bas.
Ça, c'est la différence entre l'illustrateur sur son écran et l'imprimeur. Mais bon. Bon, je vous remercie.
J'en prends note.
On va remercier Nicolas de s'être prêté au jeu. Et bonne continuation à toi pour nous fournir plein d'images dans tous les domaines. Comme quoi, il y a quand même de belles choses à faire encore en France dans l'illustration. Merci à toi.
Merci.